comme directeur général du Fonds monétaire international, je crois que de vrais progrès ont été accomplis.
Vous y croyez pas à la reprise?
Non, personnellement non. Pas du tout.
Oui, nous allons avoir une hausse de chômage continue.
Donc je pense que le gouvernement a plutôt montré ces derniers temps qu'il était plutôt en faveur des entreprises et on espère que ça va durer.
Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons pétrole. Les cours mondiaux du baril sont orientés à la baisse depuis le mois de juin dernier. Est-ce durable? Quel impact sur les pays aux économies fragiles, dont la production d'hydrocarbures est la principale richesse? Voilà les deux questions auxquelles vont répondre nos deux invités, Abderrahman Bebtoul et Antoine Alf. Bonjour Abderrahman Bebtoul.
Bonjour Monsieur Boris.
Vous êtes professeur d'économie à Alger, un auteur très prolifique. Dernière publication, un ouvrage collectif intitulé « L'intégration économique maghrébine, un destin obligé » avec un point d'interrogation au bout du titre. C'est aux éditions Anwar El Marifa. Nous allons bien sûr parler du pétrole et du gaz algérien. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord une question, Monsieur Bebtoul. Pour vous, la baisse actuelle des prix du pétrole est-elle durable ?
Bon, là, ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, est-ce que il y aura croissance de l'économie mondiale ou pas, notamment des pays émergents, notamment de la Chine, de l'Inde, du Brésil, qui accusent des taux de croissance relativement faibles. Le deuxième élément, c'est la concurrence du gaz de schiste américain, puisque l'on prévoit pour 2015 à peu près 9,5 millions de barils jour contre 8,5 actuellement.
Mais pour vous, est-ce que cette baisse des prix du pétrole va continuer malgré...
Tout dépendra de l'évolution de la croissance ou pas de l'économie mondiale et effectivement des tensions géostratégiques.
Avec nous également Antoine Alf, bonjour.
Bonjour.
Antoine Alf, vous dirigez actuellement la division des études de l'Agence internationale de l'énergie. Vous étiez précédemment à la recherche économique du département américain de l'énergie et vous publiez le mois prochain aux Oxford University Press un livre intitulé « Energy Poverty » en anglais dans le texte. Pour vous, la baisse des prix du pétrole, Antoine Alf, est-elle durable ?
Alors d'abord, je dois vous dire que l'Agence internationale de l'énergie ne fait pas de prévision de prix. Donc, il m'est un peu difficile de répondre de manière très précise. Mais je crois que les conditions du marché sont telles que les prix peuvent rester au niveau plus bas que nous avons atteint récemment. Et nous pouvons même assister à une continuation de la baisse. Mais à un moment donné, les prix élevés de production du pétrole américain, du pétrole non conventionnel, vont imposer un plancher au prix.
Alors dans cette émission, nous irons aussi à Moscou retrouver notre correspondante Muriel Pomponne. Elle nous dira que la baisse des cours du pétrole menace actuellement l'exécution du budget russe. Nous irons à Maputo, au Mozambique, avec l'envoyé spécial de RFI, Alexandra Branjon. Elle nous dira à quel point ce pays africain compte sur la production de gaz pour se développer. Et nous ponctuerons cet écho d'ici, écho d'ailleurs, avec Eric Sanson à Quito, en Équateur, ce pays andin qui essaye de réduire sa dépendance au pétrole.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
Nous parlions il y a quelques instants de la baisse des prix du pétrole. Le baril est passé sous les 80 dollars à New York, alors qu'il était au mois de juin au-dessus des 100. Le pétrole semble disponible en quantité très abondante. Christophe de Margerie, le patron de Total, qui vient de disparaître tragiquement dans l'accident de son avion à Moscou, estimait qu'il n'y avait presque plus de problème de disponibilité pétrolière. Faut-il enterrer la théorie du peak oil ? Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Alf ?
Oui, je crois qu'il faut l'enterrer.
Cette théorie qui dit qu'on va bientôt manquer de pétrole.
Oui, je crois qu'elle a été enterrée depuis longtemps. Le discours sur le pétrole a complètement changé depuis l'époque où cette théorie était en vogue, vers 2003, entre 2003 et 2008. La croissance de la demande s'est beaucoup ralentie. Et d'autre part, la technologie, les prix élevés ont permis à la technologie de débloquer une production extraordinaire. Donc ce discours n'est plus du tout d'actualité.
Abderrahman Bebtoul, vous en pensez quoi, vous, la théorie du peak oil, c'est fini, enterré ?
Non, il y a eu, comme vient de le dire notre interlocuteur, pas mal de découvertes à l'échelle mondiale. Et pour rebondir sur la question première, c'est qu'il y a un prix plancher, c'est-à-dire que Les spécialistes disent entre 75 et 80 dollars, sinon le gaz de schiste et le pétrole de schiste n'est pas rentable. Donc la baisse peut se poursuivre jusqu'au-delà de 75 dollars et tout dépendra surtout de l'Arabie Saoudite. C'est un élément très fondateur. Bon, pour le, d'après Reuters, déclaration de responsables saoudiens disant que ça les arrangerait 80-75 dollars. Bon, c'est un gros élément important. Et là, ça a des impacts, effectivement, sur, on en discutera dans la deuxième partie, sur la Russie, sur l'Algérie, sur le Venezuela, des pays qui, dont le budget fonctionne entre 110 et 130 dollars le baril.
Alors, ce qu'on appelle le gaz ou le pétrole de schiste joue un rôle important dans cette baisse des cours, Antoine Alph?
Oui, enfin, c'est pas, aux États-Unis, la production a beaucoup monté, c'est pas exactement du pétrole de schiste, on l'appelle, nous, light, light oil, mais c'est quelque chose d'assez proche, et effectivement, ces productions non conventionnelles, avec des techniques de production très différentes des techniques conventionnelles, est responsable en grande partie de la montée des approvisionnements et de la baisse des prix.
Mais quelle est la part de la production mondiale qui est, d'énergie qui est maintenant occupée par ces pétroles ou gaz non conventionnels, Antoine Alph?
Ah ben c'est une part très importante. La montée de l'approvisionnement, par exemple, en septembre, à l'échelle globale, était de presque 3 millions de barils par rapport à l'année dernière. Et une grande partie de cette hausse venait en fait de l'Amérique du Nord, des États-Unis et aussi le pétrole lourd du Oil Sands du Canada.
C'est une, en pourcentage, ça veut dire quoi, 3 millions de barils de plus par rapport à la production totale d'énergie?
Bah, par rapport à une production de l'ordre de 80 millions de barils par jour, c'est un pourcentage important. Ouais. Et puis, alors, pour le pétrole, des changements de production à la marge peuvent avoir un énorme impact sur le prix.
Abderrahmane Memtoul, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, selon vous, ça joue un rôle clé dans le panorama pétrolier énergétique actuel?
Oui, moi je pense que c'est un élément fondamental. Il y a eu des mutations énergétiques mondiales très très importantes depuis l'entrée des États-Unis et de certains pays. Bon, il y a eu un rapport américain qui classe, par exemple, mon pays, l'Algérie, à la troisième position avec des réserves de 19 800 milliards de mètres cubes
potentiel.
Bon, le taux de récupération, faut compter 15-25%, ça dépend effectivement de l'évolution technologique. Et le gouvernement algérien, dans la loi des hydrocarbures de janvier 2013, a introduit effectivement cette possibilité. Nous étions en négociation d'ailleurs avec le feu PDG de Total, dont effectivement le décès tragique. Total était très très intéressé, Suez, Shell et pas mal de sociétés américaines.
Alors dès le 27 janvier 2009, quelques jours à peine après son investiture pour son premier mandat, Barack Obama signalait le risque de la dépendance pétrolière aux importations.
La dépendance des États-Unis vis-à-vis du pétrole est l'une des menaces les plus sérieuses que notre pays ait eu à affronter. Elle enrichit les dictateurs, nourrit la prolifération nucléaire et finance les deux côtés de notre lutte contre le terrorisme. Elle met les Américains à la merci de l'évolution des prix de l'essence, étouffe l'innovation et nous rend moins compétitifs.
Cette déclaration, Antoine Alph, elle a un peu moins de 6 ans, et c'est déjà du passé lointain, ou presque. Ce mouvement vers l'autosuffisance aux États-Unis a été incroyablement rapide. Vous avez travaillé aux États-Unis, au département d'énergie. Vous avez été témoin de cette révolution.
Oui, nous ne sommes pas encore au niveau de l'autosuffisance. Hein. C'est une prévision à plus long terme, mais la dépendance aux importations est beaucoup plus faible. Non, les États-Unis restent le plus grand importateur de pétrole aujourd'hui, mais leur dépendance va se restreindre, s'amenuiser, il n'y a pas de doute. Et il dispose maintenant de prix de gaz très faibles, ce qui a encouragé le développement industriel, un renouveau de l'industrie pétrochimique était en déliquescence, donc ça a beaucoup changé les choses. Ce qui est important aussi, c'est que ce changement, c'est pas seulement un changement de la production, une augmentation de la production, mais c'est aussi un bouleversement complet des flux pétroliers dans l'ensemble du monde. Parce que les États-Unis ayant réduit leurs importations, ces importations maintenant doivent être redirigées vers d'autres marchés, et ces marchés sont maintenant en grande partie les marchés asiatiques. Donc nous avons produit à l'Agence internationale de l'énergie un rapport de prévision des marchés du pétrole à moyen terme à l'horizon 2020. Et dans ce rapport, nous prévoyons que l'Asie sera à la fin 2019, responsable de 65% des achats de pétrole sur le marché international.
Alors la baisse des prix du pétrole, la presque autosuffisance américaine dans quelques années, Antoine Alph, l'apparition de nouveaux producteurs, tout cela crée des problèmes à l'un des grands du monde pétrolier, la Russie, dont l'économie dépend beaucoup de cette rente pétrolière. Écoutez le reportage de Muriel Pomponne, la correspondante permanente de RFI à Moscou.
Les recettes pétrolières constituent la moitié du budget de la Russie, sans compter les revenus liés aux activités générées par l'exploitation de l'or noir. Mais les budgets des trois ans à venir ont été évalués avec un prix du brut supérieur au cours actuel. Alexandre Abrahamov, professeur à la Haute École d'économie.
Le budget est calculé avec un baril à 96 dollars pour 2015 et avec un baril à 100 dollars pour 2016-2017. À court terme, pour les six prochains mois, le budget peut fonctionner sans problème, car la baisse du brut est compensée en partie par la dévaluation du rouble. Je pense qu'avec un baril à 90 dollars, la situation n'est pas critique. Par contre, un prix plus bas obligerait à réviser le budget. Et la situation serait également critique si le cours du brut restait à ce niveau pendant 3 ou 4 ans.
Les crises pétrolières ont des incidences non seulement sur le budget, mais aussi sur la politique russe.
Nous avons un peu oublié qu'en règle générale, les cycles pétroliers sont à l'origine des libéralisations dans le système économique de la Russie. En fin de compte, l'arrivée au pouvoir de Guédard dans les années 90, avec sa politique de libéralisation, avait été provoquée par la chute des cours du brut et par l'instabilité des revenus budgétaires. Quand Helsinki a dit aux régions « prenez autant de liberté que vous pouvez », ça s'expliquait aussi par la baisse des moyens budgétaires pour financer les dépenses sociales. Si cette baisse devait durer longtemps, ça pourrait influencer la vie sociale, économique et politique.
Lors de la crise de 2008, la Russie a dû puiser dans ses réserves monétaires. Pour autant, elle n'en a pas tiré toutes les leçons.
En 2008,
quand le prix du baril a chuté pendant 6 mois, les réserves en devises, qui étaient de 530 milliards de dollars, ont diminué de 220 milliards de dollars. Si la crise de 2008 avait duré non pas 6 mois, mais 2 ou 3 ans, les réserves en devises se seraient épuisées. Donc, la Russie dispose de 2 ou 3 ans environ pour manœuvrer. La crise de 2008 a permis au gouvernement d'apprendre comment lutter contre les chocs à court et moyen terme, mais pas à long terme. On n'a pas restructuré l'économie et la dépense pétrolière, au lieu de diminuer, n'a cessé d'augmenter. La Russie a amélioré sa compétitivité au niveau mondial, mais deux problèmes n'ont pas été résolus. D'abord, on n'a pas créé le climat d'entrepreneuriat qui favoriserait les innovations et la diversification. Et ensuite, on a parié sur l'intervention de l'État dans les affaires au lieu de développer les petites et moyennes entreprises.
Récemment, le ministre des Finances, Anton Silouanov, a estimé que si les cours du pétrole et le taux de change restaient à leur niveau actuel, l'année prochaine, le gouvernement aurait besoin de piocher dans le fonds de réserve à hauteur de 500 milliards de roubles.
Or, le cas de la Russie est intéressant. C'est une puissance politique, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un pays qui joue un rôle important, Abderrahmane Mebtoul, sur le marché pétrolier, mais c'est un pays qui se montre incapable, semble-t-il, de tirer les conséquences d'expériences douloureuses du passé.
Bon, vous savez, bon, d'abord pour revenir à la question pourquoi la baisse des prix, bon, n'oublions pas que, par exemple, la Libye a une capacité, elle faisait 1,6 million de barils jour, et elle a la possibilité d'avoir 2 millions de barils jour. L'Irak, c'est 3...
Mais sur le cas russe, pourquoi est-ce qu'un pays aussi important, avec un gouvernement aussi puissant et centralisé, n'arrive pas à faire évoluer son modèle économique?
Non, il existe une loi économique qui n'est pas propre à la Russie. Ça s'applique à la plupart des pays qui dépendent de cette rente. Plus la rente est importante, plus on freine les réformes. Ça veut dire qu'on juge que les réformes ne sont pas effectivement nécessaires puisqu'il y a de l'argent acquis facilement. C'est le cas, par exemple, je prends le cas de mon pays. Bon, 97% des recettes en devises proviennent des hydrocarbures. 80% de la dépense publique actuellement d'un programme qui a été de 630 milliards de dollars, à la fois budget de fonctionnement et d'équipement, entre 2000 et fin 2013, 80% proviennent des hydrocarbures. Les 195 milliards de dollars, non compris les 173 tonnes d'or, proviennent des hydrocarbures. Bon, pour le cas d'Algérie, c'est un peu comme le cas russe, hein. On peut tenir avec le fonds de régulation de recettes et les réserves de change pour 3-4 ans. Il y a eu un rapport récent du Fonds monétaire international qui date de 4-5 jours, disant que il faut aller vers des réformes de fonds structurels, microéconomiques et institutionnels. Sinon, dans 4 ans, vous n'aurez peut-être pas de problème jusqu'à 2018-2019, mais vous risquez d'aller vers l'épuisement à la fois des réserves de change et du Fonds de régulation des recettes. Donc, le cas algérien, il est semblable à celui de la Russie. Moi, je pense, pour en avoir discuté avec les responsables du gouvernement algérien, qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience et le programme que doit présenter le Premier ministre vers décembre 2014, c'est effectivement comment faire passer la trajectoire d'une économie de rente à une économie hors hydrocarbures dans le cadre des valeurs internationales, parce que l'Algérie est liée à un accord avec l'Union européenne dont le tarif douanier est zéro. Elle aspire aussi à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce.
Alors Antoine Alph, le reportage de Muriel Pompal nous montre que le budget russe sera affecté si la baisse des cours mondiaux se poursuivait durablement. Quels sont les coûts de production du pétrole russe? Cette baisse, est-ce qu'elle ne risque pas d'affecter les niveaux de production russes?
Je crois que c'est effectivement le cas. D'ailleurs, le prix du pétrole qui est utilisé dans le budget ne représente sans doute pas les véritables exigences du budget, parce que le budget réel est un petit peu au-dessus du budget officiel, et le prix du pétrole requis pour équilibrer le budget est sans doute plus élevé que 95 pour 2015 ou 100 pour 2016-2017. Donc je crois qu'effectivement, la baisse des prix est un défi très important, qui est aggravé en ce moment par les sanctions occidentales contre la Russie à cause de l'Ukraine, et on peut s'attendre à ce que l'industrie russe est à de gros problèmes à maintenir la production, c'est encore plus bien sûr à l'augmenter.
Parce que les coûts de production, est-ce qu'ils sont au niveau des cours mondiaux en ce moment? Le professeur Meptoul parlait de l'Arabie Saoudite avec un cours qui lui conviendrait, qui était aux alentours de 75 dollars. Est-ce que pour la Russie, on a les mêmes exigences ou les mêmes besoins?
Non, les prix de production ne sont pas forcément le défi le plus important. Les besoins du budget ne représentent pas les prix de production, les coûts de production. Il y a des besoins sociaux au-delà des coûts de production. Ce sont deux problèmes différents. Le problème de la Russie, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de compétences techniques, c'est un problème de la domination de l'État, comme le reportage en faisait mention. Donc d'inefficacité des compagnies. La Russie a un potentiel énorme en ressources d'hydrocarbures, mais aussi des problèmes énormes en matière de gouvernance, et c'est un cas particulier du nationalisme énergétique qui s'est beaucoup développé dans les pays producteurs, notamment la Russie, au moment de la flambée des prix vers 2008, et qui a induit des effets pervers.
Qu'est-ce que c'est le nationalisme énergétique? Vous le définiriez comment?
C'est la tentative des États, face à la montée des prix, au lieu de répondre aux exigences du marché et d'augmenter la production pour satisfaire la demande, c'est la tentation de restreindre la production et de capter une plus grande part de la rente énergétique, de la rente pétrolière. Donc l'augmentation des taxes, l'augmentation des royalties, l'expropriation des compagnies, l'expropriation de Yukos par exemple, et l'effort de l'État pour prendre possession des ressources et en exploiter, en tirer le plus grand profit possible.
Abderrahmane Mebdoul, nationalisme énergétique, l'Algérie c'est la même chose?
Non, l'Algérie, elle a adopté au niveau de la loi des hydrocarbures de janvier 2013 la règle des 49-51%. Bon, effectivement, si pour les grands gisements, ça pose effectivement pas de problème, pour les gisements marginaux, ça pose effectivement un véritable problème. Et on l'a vu récemment lors des avis d'appel d'offres il y a un mois, de Sonatrach, sur 33 avis d'appel d'offres, il y en a eu 5.
Donc 5 quoi, qui ont été pris?
Bon, 5 ont été concrétisés sur 33. Mais je pense que pour les gisements marginaux, beaucoup de compagnies ne sont pas intéressées par la règle des 49-51. Un autre élément pour les...
C'est-à-dire 51 pour le gouvernement algérien, pour l'État algérien.
Pour Sonatrach et 49%
pour les productions.
Pour les producteurs. Donc c'est une semi-libéralisation.
C'est la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la baisse du prix du pétrole et à leur impact sur les pays pétroliers et gaziers, à l'économie fragile. Nous nous retrouvons dans quelques instants après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.
l'année prochaine. Nous prévoyons un taux de croissance de 5,5% pour l'Afrique subsaharienne.
Le modèle que nous avons développé au Maroc, que nous souhaitons dupliquer en Afrique subsaharienne, c'est de s'ouvrir sur les classes moyennes, les fonctionnaires et les salariés, et les très petites entreprises et les PME-PMI.
On gagne pas. Tout le problème, c'est le non-paiement des salaires. C'est ça qui me fait mal. Si tu travailles, on doit te payer. Nous réclamons que ça, nos droits.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour, deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la baisse des prix du pétrole, à la manne pétrolière et gazière et aux risques qu'elle comporte. Deux invités, Antoine Alf de l'Agence internationale de l'énergie et l'économiste algérien Abderrahmane Mebtoul. Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé baisse des prix du pétrole, nous avons parlé de la Russie, de ses difficultés budgétaires face à cette baisse. Voyons maintenant plus au sud. L'Agence internationale de l'énergie a publié il y a deux semaines un rapport sur l'Afrique subsaharienne. Selon ce document, le secteur de l'énergie pourrait déclencher une nouvelle décennie de croissance au sud du Sahara. Le pétrole, c'est l'arme de la croissance pour l'Afrique, Antoine Alf?
Ça peut l'être. Bien sûr, il y a des défis importants et on a vu que des pays producteurs en Afrique ont été victimes du pétrole autant qu'ils ont été les bénéficiaires. Je pense particulièrement au Nigeria. Mais ça, le 21e siècle peut être un siècle africain s'il arrive à développer le potentiel énorme sans que cela nuise aux économies et à la gouvernance des pays.
Alors l'un des pays africains qui affiche depuis peu de très grandes ambitions gazières, c'est le Mozambique, en passe de devenir un des géants mondiaux de ce secteur. C'est ce qu'a constaté Alexandra Branjon, l'envoyé spécial de RFI à Maputo ces derniers jours. Écoutez son reportage.
Le Mozambique pourrait devenir le troisième producteur mondial de gaz. Selon les experts, le pays disposerait de 2000 milliards de mètres cubes de gaz, des réserves qui se situent au large des côtes dans le nord du pays. Depuis, les investisseurs affluent, tout est à faire, développer les routes, les chemins de fer, les logements. Le gouvernement, quant à lui, s'est lourdement endetté pour financer ce développement. Une dette qui inquiète les économistes car les revenus ne sont pas encore là. Cela va prendre encore 4 à 6 ans. Pour Carlos Castelbranco, les bases de l'économie ne sont pas solides.
Les investissements actuels ne diversifient pas l'économie et restent centrés autour des matières premières. Donc si dans 10 ans, certaines de ces matières premières sont épuisées, ou si le marché de ces matières premières s'est écroulé, non seulement nous aurons une dette, mais en plus nous n'aurons pas de revenus et très peu d'alternatives. Et cette image d'Épinal ne résout pas le problème de pauvreté au Mozambique, parce que ces investissements ne créent pas tant d'emplois avec des salaires décents. Par exemple, pour l'extraction du gaz, vous avez un pipeline et l'extraction avec un peu de logistique, mais il n'y a pas une importante main-d'œuvre qui creuse pour extraire le gaz.
Pour cet économiste, non seulement la population mozambicaine ne profite pas de ces investissements, en tout cas pas pour l'instant, mais en plus elle se sent exclue.
Par exemple, regardez la région de Tete où l'industrie du charbon s'est développée. Des infrastructures ont été construites, tout s'est développé et les gens disent toujours que si vous allez là-bas, ça n'a plus rien à voir avec il y a 3 ans. Les Brésiliens sont là, il y a des boulangeries avec des produits brésiliens, du fromage, des pains, des croissants. Tout ça c'est très bien, mais qui mange dans ces boulangeries?
En effet, à Maputo, le développement est visible. Hôtels de luxe, restaurants, centres commerciaux, mais tout a augmenté. Loyer, nourriture et le salaire minimum est toujours très bas, 3000 méticales, soit 75 euros. Pour Denise, qui travaille dans la restauration, toute cette richesse n'est pas à la portée des Mozambicains.
Les hôtels, je ne vais pas payer 300 dollars pour une chambre d'hôtel. Croyez-moi, ni moi, ni la plupart des gens ici, les étrangers peut-être. Les constructions, vous allez y travailler pendant 6 mois, et une fois que le bâtiment sera fini, vous n'allez pas y habiter et vous n'allez même plus y travailler.
Aujourd'hui, la frustration de la population est palpable et de nombreux analystes se demandent si le gaz permettra au Mozambique de sortir de la pauvreté.
Abderrahmane Mebtoul, on a l'impression que le Mozambique s'apprête à exporter son gaz, mais il n'importe pas de richesse.
Non, là, c'est tout un problème de la gouvernance au niveau des pays de l'Afrique. Hein. Bon, il y a une phrase lapidaire qui dit que certains pays sont riches, mais les populations sont de plus en plus pauvres.
C'est ce qu'on voit dans ce reportage.
Effectivement, ça résume très très bien. Et effectivement, ça renvoie à un problème de l'instauration de la démocratie, d'un état de droit, et ça renvoie à des problèmes politiques de fond. Bon, c'est vrai que le pétrole en Afrique, selon les statistiques, représente à peu près 12% des exportations mondiales actuellement, hein. Mais le gros problème qui se pose, c'est comment transformer cette richesse virtuelle en richesse réelle et lier l'accumulation à une répartition juste du revenu national entre les différentes couches sociales, hein. Et là, ça renvoie à un problème de la moralité presque, hein, c'est-à-dire de cette injustice qui se creuse malgré des richesses colossales. Cela n'est pas propre au Mozambique, et là, mais il faut pas avoir une vision négative, hein. Moi, je pense que le continent Afrique, si on prend les 30 dernières années, beaucoup d'insuffisances, mais beaucoup de progrès, hein. Il y a eu quand même relativement des progrès, une prise de conscience des populations. Et là, effectivement, le développement de l'Afrique passe par des sous-intégrations régionales, hein. C'est un élément fondamental et une meilleure, bien entendu, gouvernance.
Antoine Alf, est-ce qu'on connaît les mécanismes qui font que cette richesse gazière ou pétrolière peut irriguer toute l'économie? Est-ce qu'il y a des recettes ou est-ce qu'on ne connaît pas ces recettes? Parce qu'il y a quand même des pays qui ont réussi à se développer grâce à l'énergie.
Bien sûr, il y a des pays qui sont des success stories. Il est important
d'abord... Vous pensez
auquel? Un des pays types auxquels on pense toujours, c'est la Norvège, qui a eu un développement pétrolier extraordinaire et qui a réussi à bien maîtriser les flux de revenus et à en faire bénéficier le pays de façon à diversifier l'économie sans appauvrir le climat politique et ainsi de suite. Mais c'est un petit pays, donc toutes les...
De quelques millions d'habitants.
Oui, donc on a parfois tendance à vouloir appliquer à d'autres pays les recettes de la Norvège et elles ne peuvent pas toujours se transférer si simplement.
Mais quelles sont les recettes que la Norvège a appliquées?
Je crois qu'un des gros enjeux pour les pays pétroliers et les pays producteurs de matières premières, tels qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est de développer des politiques qu'on appelle de local content.
C'est-à-dire de contenu local.
De contenu local pour que le développement du secteur gazier ou pétrolier ou autre bénéficie à l'ensemble de l'industrie, à l'ensemble du secteur économique, au lieu au contraire de l'appauvrir et de favoriser des importations qui lui font ensuite concurrence.
Mais par exemple au Mozambique, dans ce reportage, Abderrahmane Mebtoul, on voit bien que il y a des importations ou de la fabrication locale de produits boulangers, par exemple, ce que raconte Alexandra Branjon, mais ça n'est pas la population locale qui en profite, qui consomme ou qui produit.
Bon, ça c'est le syndrome hollandais, hein. Ce qu'on appelle le syndrome hollandais.
C'est quoi le syndrome hollandais?
Le syndrome hollandais, c'est-à-dire que les Hollandais avaient découvert du gaz et ils ont détruit totalement leur industrie locale. Il était beaucoup plus facile d'importer que de produire localement. C'est ça ce qu'on appelle le syndrome.
Je crois que le paradoxe est encore plus profond que ce que vous soulignez. C'est non seulement que les revenus ne bénéficient pas toujours à l'ensemble de l'économie et de la population, mais que souvent les pays producteurs, notamment en Afrique, sont aussi des pays dont la population est pauvre en énergie. Non seulement en revenus, mais en énergie. Pour le Nigeria, par exemple, comme pour l'Afrique du Sud ou d'autres pays, mais pour des pays gros producteurs comme le Nigeria, un des problèmes de l'économie, c'est la pauvreté de l'approvisionnement en électricité, le fait qu'une grande partie de la population n'a pas accès à l'électricité. C'est un problème criant en Afrique, mais c'est en fait un problème planétaire, parce qu'il est tout à fait lié aux problèmes de santé, par exemple l'épidémie d'Ebola. Ce n'est pas sans doute un hasard, si elle s'est surtout développée dans certains des pays où l'accès à l'électricité est le plus restreint.
Mais pour produire de l'énergie avec du pétrole, il faut le raffiner. Il ne suffit pas de l'exporter à l'état brut. Et nombre de pays africains sont obligés d'importer du pétrole raffiné, alors qu'ils sont exportateurs de brut. Pourquoi ?
En grande partie, il y a plusieurs facteurs à ce problème. En grande partie, c'est parce que les prix des produits raffinés dans les économies locales sont très bas et ne permettent pas à l'industrie du raffinage d'être rentable. Et alors, en plus de cela, il y a des sociétés de courtage qui bénéficient grandement du négoce, des importations, des exportations, etc., et qui ont tendance à mettre les bâtons dans les roues de tout projet visant à assurer l'indépendance en produits raffinés des pays.
Alors, venons-en à l'Algérie, Abderrahmane Mebtoul. Votre pays, c'est une puissance pétrolière et surtout gazière, mais son développement n'est pas encore abouti, son émergence. Il y a 30 ans déjà, par la voix de son ministre de la Planification de l'époque, Ali Oubouya, le gouvernement algérien s'inquiétait des niveaux de production agricole. C'était le 24 décembre 1984. Écoutez.
L'Algérie a fait de très gros efforts pour développer ses industries de base. Elle a réalisé aussi de très grands investissements dans les hydrocarbures. Il y a des secteurs dans lesquels nous avons enregistré des retards et que nous voulons renforcer, développer. C'est le cas, par exemple, de l'hydraulique et de l'agriculture. L'agriculture s'est peut-être développée moins vite que les autres secteurs et s'est développée moins vite que les besoins. Par conséquent, pour faire face à ces besoins, on est obligé d'importer de plus en plus de produits alimentaires.
C'était il y a 30 ans. Est-ce que ça a beaucoup changé, Abderrahmane Mebtoul ?
Non, moi je voudrais, par rapport à la pauvreté, c'est que l'Algérie, effectivement, est un cas à part, parce que on redistribue, bien sûr c'est pas égalitaire, mais je vous donne un chiffre faramineux, entre les transferts sociaux et les subventions, c'est 60 milliards. C'est 28% du produit intérieur brut.
60 milliards de
dollars. Bon, pour l'électrification, nous aboutissons actuellement à peu près vers 95% de l'électrification totale du pays. Il y a une politique aussi de l'eau, avec la pluie notamment de Suez. Donc là, c'est la nature du régime lui-même populiste qui fait que quand même, malgré que la distribution est inégalitaire, mais quand même, elle profite à une majorité de la population, ce qui n'est pas le cas dans bon nombre de pays d'Afrique. Il ne faut pas avoir une vision essentiellement négative. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention des pouvoirs publics, disant, on ne peut pas continuer, on revient à la chute du cours du pétrole, on ne peut pas continuer à distribuer des traitements et des salaires sans contrepartie productive. Donc, et là, effectivement, contrairement à pas mal de pays, il y a une politique due à la nature même de la structure du pouvoir algérien, d'une justice sociale, hein, même si elle est relative.
Mais, sur ce que disait Ali Boudouya il y a 30 ans, est-ce qu'il y a eu des progrès ? Est-ce que l'agriculture algérienne s'est beaucoup développée depuis 30 ans ?
Non, moi je pense qu'il faut pas... Il y a eu un rapport il y a 3-4 ans du Fonds monétaire international qui dit qu'il y a eu un rebond de l'agriculture algérienne. Par exemple, les fruits et légumes, on ne les importe pas. Avant, c'était la pénurie. Donc, effectivement, si on prend la structure en valeur, effectivement, c'est cher, c'est dû à la parcellisation. Vous savez que lorsque c'est des petites parcelles, les coûts de production sont relativement élevés. Mais là, il y a eu une nette amélioration depuis la libéralisation de l'agriculture. Hein. Bon, c'est vrai qu'on importe une grande partie des produits alimentaires semi-durables et durables. Mais là, le gros problème, le défi fondamental avec la chute des cours des hydrocarbures, et là je le répète, et je pense qu'il y a une prise de conscience en Algérie, ça ne peut pas durer cette situation. C'est le problème de développer les filières internationalisées. L'exemple de Renault qui va être inauguré le 10 novembre à Oran peut être un bon exemple de copartenariat entre l'Algérie et la France. Je pense que la réunion qu'aura le Premier ministre algérien avec son homologue français le 4-5 décembre à Paris, bon, pas uniquement avec la France, mais aussi avec d'autres partenaires, c'est d'aller vers des copartenariats pour asseoir la base industrielle et, comme le dit mon ami Jean-Louis Guigou, des colocalisations, mais là il faut prévoir des fonds souverains.
Alors, cette difficulté malgré tout qu'a l'Algérie à transformer son énergie, son gaz, son pétrole, à diversifier son économie, eh bien, on l'abordait pas plus tard que la semaine dernière avec l'économiste Michel Aglietta à ce micro.
C'est un pays qui semble avoir beaucoup de mal à convertir la rente pétrolière, c'est-à-dire le revenu qu'on tire de la propriété du pétrole, hein, en un processus d'industrialisation compétitif, augmenter la compétitivité et diversifier sa structure productive. Les pays qui réussissent sont assez peu nombreux, c'est-à-dire les pays qui ont des rentes pétrolières ont un mal fou à la transformer ensuite en une économie dynamique. Et c'est le problème de l'État, de comment on dirige, est-ce qu'on a un point de vue sur le futur de développement, etc. L'Algérie, manifestement, n'y réussit pas bien.
C'est une question de projet politique, Antoine Alph ?
Oui, c'est une question de projet politique, c'est une question de qui dépasse simplement le domaine énergétique. C'est
une question de projection dans l'avenir.
Certainement.
Une question de volonté.
Certainement.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI, nous parlons pétrole, baisse des prix et dépendance des pays producteurs à cette drogue qu'est le pétrole. Deux invités, l'économiste algérien Derahman Mebtoul et Antoine Alf de l'Agence internationale de l'énergie. Je parlais de drogue, Abderrahman Mebtoul, on est drogué au pétrole, les pays producteurs sont drogués, c'est un mot juste.
Le pétrole peut être une bénédiction, M. Alf a cité le cas de la Norvège qui est un petit pays, mais peut être aussi une malédiction. C'est-à-dire qu'il peut inhiber tout esprit de créativité, de bonne gouvernance, d'État de droit. M. Aglietta a bien montré effectivement que le grand défi auquel est affronté pas uniquement l'Algérie, mais pas le pays, c'est de transformer cette richesse virtuelle en richesse réelle. C'est le fondement même de l'économie politique, des fondateurs de l'économie. Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, et effectivement, comme vous venez de le dire, avoir des ressources facilement peut inhiber toute idée de changement. Parce que les gagnants de demain ne sont pas les gagnants d'aujourd'hui. C'est des luttes politiques. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des réformes institutionnelles et microéconomiques, il y a l'émergence de nouveaux entrepreneurs qui évincent les anciens qui vivaient de la rente. Beaucoup d'entrepreneurs, qu'ils soient publics ou privés, vivent des transferts de la rente. Et dans ce cas-là, il faut l'idéal, comme l'a fait la Norvège, c'est d'autonomiser la section des hydrocarbures et de développer les sections hors rente. Dans le cadre des valeurs internationales, parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Bon, le livre que vous avez cité, moi je suis un fervent défenseur de l'intégration du Grand Maghreb. Je ne pense pas qu'on puisse faire émerger des entreprises compétitives au sein de micro-États.
Mais l'Algérie, c'est pas un micro-État, la Sonatrach, c'est une entreprise importante.
Non. L'Algérie, c'est 38 millions d'habitants. Le Maroc, c'est 33 millions d'habitants. Les Tunisiens sont 11-12 millions d'habitants. Les Libyens sont 6 millions d'habitants. Et l'avenir du Maghreb, c'est en Afrique. Moi, je pense que les avantages comparatifs de ce grand Maghreb sont en Afrique. Parce qu'une grande firme multinationale n'investit pas pour 38 millions d'habitants. Et là, ça dépendra de l'évolution du pouvoir d'achat. On n'a pas parlé de l'évolution du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des pays dotés en hydrocarbures sont corrélés à plus de 70-80% par rapport à cette rente. Si demain la rente baisse, c'est la détérioration du pouvoir d'achat. Ça peut avoir des incidences à la fois à court terme économique, financière, sociale et politique. L'Algérie a connu cela. En 86, 70% des recettes des hydrocarbures. Crise financière, crise économique. 94, le réchauffement, et on a connu une décennie catastrophique du terrorisme où certains, effectivement, ont utilisé la religion à des fins de pouvoir en invoquant, disons, la faiblesse du pouvoir, que c'est un pouvoir rentier, corrompu, etc., etc. Donc ça peut avoir en Afrique une chute des cours de travail, des incidences politiques.
Alors, en Amérique latine aussi, la dépendance au pétrole fait des ravages. Par exemple, en Équateur, le petit poucet de l'OPEP, avec une production quotidienne moyenne d'1,5 million de barils jour, le président équatorien, Rafael Correa, essaye d'échapper au piège de la mono-exportation pétrolière et pousse la production minière, mais le pétrole fait de la résistance en quelque sorte. Reportage à Quito de notre correspondant Eric Sanson.
Depuis plusieurs semaines, le gouvernement équatorien regarde avec préoccupation la chute des cours. Ces derniers jours, le baril de brut équatorien se vend à 73 $, c'est moins que le prix de référence prévu dans le budget. Le prix du pétrole ayant été élevé en début d'année, le gouvernement a encore de la réserve, mais plus beaucoup, d'autant qu'une partie de la production a été prévendue à la Chine en échange de crédits. Une politique condamnée par Fernando Villavicencio.
Tout le pétrole équatorien est pratiquement vendu à un seul pays, la Chine. Nous n'avons jamais été aussi dépendants d'un seul client, qui est aussi notre principal banquier. Nous vendons à PetroChina pour que les Chinois revendent notre brut avec des bénéfices sur le marché international, aux États-Unis ou à Panama.
Avec plus de 8 milliards de dollars cette année, l'investissement public est à la base de la croissance équatorienne et de la popularité du régime. Rafael Correa défend la politique pétrolière de son gouvernement, même s'il a reconnu certains abus, en particulier avec des envois de brut en Uruguay.
L'idée était de leur donner notre pétrole brut pour qu'ils le raffinent et nous renvoient des produits dérivés. Ils l'ont fait deux fois, mais après ils ont commencé à revendre notre pétrole. Du coup, nous avons décidé de ne pas renouveler ces contrats. Maintenant, si PetroChina négocie notre pétrole, cela ne veut pas dire nécessairement que l'Équateur y perd.
Difficile cependant de le vérifier. Les détails des accords signés avec la Chine sont confidentiels, d'après une loi votée officiellement pour ne pas mettre en danger les intérêts du pays. Une politique que Rafael Correa défend régulièrement auprès de la presse internationale.
La Chine regorge de ressources financières au point de financer les États-Unis. Avec une goutte de cette richesse, la Chine peut nous aider à sortir du sous-développement. La Chine a besoin de pétrole et nous, justement, nous en avons. Ce sont les écologistes fondamentalistes qui s'opposent à un échange bénéfique pour les deux pays. Pourquoi refusent-ils que l'on finance la construction de routes ou de centrales hydrauliques ?
Des arguments rejetés par d'anciens alliés écologistes du président Correa, comme Esperanza Martinez de l'ONG Action Écologique.
Il faut évoluer vers un Équateur post-extraction, c'est-à-dire un Équateur de l'après-pétrole qui ne devrait pas remplacer l'or noir par l'activité minière. Ces changements réels que demandent de nombreux mouvements sociaux sont des changements de modèle. Ne pas parier notre futur sur le pétrole, sur la mine ou les biocombustibles. Ça, c'était l'agenda, et c'est toujours l'agenda de la droite, du néolibéralisme et des transnationales.
Rejetant les propositions de ceux qu'il considère comme des écologistes enfantins, Rafael Correa rappelle que son gouvernement construit actuellement 8 centrales hydroélectriques pour diminuer les importations de produits pétroliers. Ne plus dépendre de l'or noir implique des efforts financés aujourd'hui par le pétrole, demain par l'activité minière. Tout un paradoxe en Équateur comme ailleurs.
On a l'impression que l'Équateur ne sait pas trop où elle va. D'un côté, elle veut diversifier son économie, Antoine Alph. De l'autre, elle vend tout son pétrole à la Chine. C'est très contradictoire. Comment l'expliquer ?
Oui, c'est contradictoire. Je crois qu'un des le reportage, je crois, identifie bien un des problèmes pour les pays exportateurs, c'est l'ascendance de la Chine et la prédominance de la Chine. Et un des défis, c'est d'avoir une dépendance excessive à l'égard de cet acheteur très important. C'est un renversement profond par rapport à la situation qu'on a connue dans le passé, où les acheteurs de pétrole en Asie avaient à payer un prix plus important pour le pétrole que les autres, parce qu'ils étaient défavorisés, plus loin, ils avaient moins de sources d'importation. Aujourd'hui, avec le développement de l'énergie américaine, avec l'appauvrissement, la baisse du raffinage en Europe, l'Asie est devenue le marché principal et les Asiatiques ont maintenant un pouvoir d'acheteur. C'est une nouvelle réalité pour les pays producteurs.
C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent imposer leurs conditions, payer moins cher ?
Ils peuvent de plus en plus imposer leurs conditions et contribuer à faire baisser les prix. C'est une nouvelle donne.
Mais auparavant, l'Équateur ou d'autres pays latino-américains, j'imagine, vendaient essentiellement aux États-Unis.
C'est ça. Le marché américain était le marché naturel pour le pétrole, par exemple, vénézuélien ou colombien, etc.
Abderrahmane Abtoul, l'Algérie connaît aussi ce problème ?
Non. L'Algérie est beaucoup plus liée à l'Europe. Bon, depuis le développement du gaz de schiste, je vous donne... c'est vrai que vous n'aimez pas trop les chiffres, mais en 2011, la balance commerciale entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie était à peu près de 11-12 milliards de dollars. Fin 2013, elle n'est plus que de 5. Ça veut dire que les États-Unis achètent de moins en moins. Donc l'Algérie, dans un avenir relativement proche, est beaucoup plus liée à l'Europe. Et là, malheureusement, il n'y a pas une politique énergétique commune en Europe. Et ça nous pose effectivement des problèmes.
Il y a un autre pays dont vous avez prononcé le nom, c'est le Venezuela, qui est en quelque sorte l'exemple typique du pays pétrolier. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
C'est l'exemple à ne pas suivre. En ce moment, la production baisse et la baisse des prix aggrave l'impact des baisses de revenus de l'exportation.
Mais pourquoi est-ce que la production baisse ?
La production baisse parce que le pays n'a pas réussi à créer les conditions acceptables pour que les compagnies étrangères puissent se développer. Et les compagnies nationales, la compagnie nationale a été elle-même...
PDVSA
a été elle-même vidée de toute son expertise lorsque le président Chavez a renvoyé les dirigeants qui avaient contribué à la grève générale de 2002-2003.
C'est aussi du nationalisme énergétique, pour reprendre une formule que vous utilisiez tout à l'heure.
Oui, c'est le nationalisme énergétique dans une version caricaturale et désastreuse.
Alors le président Chavez, on s'en souvient de son vivant, menaçait de suspendre ses exportations de pétrole aux États-Unis. Aujourd'hui, est-ce que le Venezuela continue à exporter du pétrole aux États-Unis?
Le Venezuela exporte encore un peu de pétrole, oui, naturellement, mais diversifie de plus en plus et a beaucoup prévendu à la Chine, donc exporte de plus en plus vers la Chine, ce qui n'est pas forcément le marché le plus naturel et le plus rentable pour ce pays.
Alors, la prévente à la Chine, vous en parlez pour le Venezuela, on a vu cela dans le reportage d'Éric Sanson en Équateur, on a vu aussi cela lorsque Alexandre Abrangeau nous parlait du Mozambique. Est-ce que c'est un modèle unique qui est en train de s'imposer, ça, la prévente à la Chine?
Ça se développe, on voit même en Russie, la Russie a aussi souscrit des emprunts très importants qui en fait sont une forme de prévente à la Chine. Mais je crois que nous avons tendance dans cette discussion à diaboliser beaucoup le pétrole. Et il ne faut pas non plus le diaboliser complètement, parce que le pétrole peut être une bénédiction, une ressource extraordinaire. Et tout pays producteur n'est pas forcément un pays en crise. Il n'y a qu'à voir les États-Unis qui sont aujourd'hui le pays producteur d'hydrocarbures, de liquide hydrocarbures le plus important de la planète. Plus développé en août, que production plus importante que celle de l'Arabie Saoudite et que celle de la Russie, il n'y a pas de problème de gouvernance ou de d'affaiblissement des institutions démocratiques dans ce pays.
Abderrahmane Mebtoul, le pétrole, c'est une bénédiction ou une malédiction?
Bon, j'y ai répondu. Moi, je pense qu'il y a un lien dialectique dans pas mal de pays entre les hydrocarbures de manière générale et les subventions généralisées qui faussent l'allocation rationnelle des ressources. C'est-à-dire que le prix ne reflète pas le prix du marché. Et là, les subventions, effectivement, découragent une production locale.
Alors, Écho d'ici, Écho d'ailleurs est maintenant terminé. Merci à vous deux, Abderrahmane Mebtoul et Antoine Alph, d'y avoir participé. Merci à la Sonothèque de RFI pour sa précieuse collaboration. Cette émission était réalisée par Guillaume Munier. Je vous dis à la semaine prochaine pour un grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous recevrons le Tunisien Radi Medeb.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.